Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, puisque c'est la première fois que nous nous voyons pour l'année 2016, je reconnais plein de visages familiers que j'ai vus lors des deux premières séances sur la honte. Je voudrais d'abord souhaiter à tous une bonne année 2016, puisque nous nous retrouvons pour la première fois. La dernière fois, vous vous en souvenez, ceux qui étaient là, c'était début novembre, c'est-à-dire avant les attentats du 13 novembre. Et donc je voulais d'abord souhaiter à tous, nous souhaiter que l'année ne soit plus légère, que la terrible année écoulée, et qu'elle nous donne un peu plus quelques occasions de nous émerveiller. Je voudrais remercier à nouveau le Théâtre de l'Odéon, Marie-Hélène Boulan, qui organise, qui m'aide beaucoup, voilà, pour toute la logistique, et le Théâtre de l'Odéon qui nous accueille, Olivier Banderis, qui nous fait l'amitié de nous recevoir dans son théâtre. Je voudrais remercier Alice Billon, qui pour la troisième fois lira les textes que nous avons choisis. Et puis je voudrais évidemment surtout remercier mon invité de ce soir, qui était déjà venu l'an dernier nous parler de la haine, Frédéric Worms. Il y avait donc Frédéric Worms, je ne suis même pas sûr qu'il soit besoin de le présenter, mais je vais le faire quand même, parce qu'après tout, tout le monde ne le sait peut-être pas. Il est professeur de philosophie à l'École normale supérieure. Il est directeur adjoint de l'École normale supérieure depuis le mois de septembre, donc avec un emploi du temps, vous pouvez imaginer. Et j'ai craint jusqu'au dernier moment qu'il annule cette séance. Et bien évidemment, il m'a dit qu'il n'en était pas question. Et donc, mais sachant absolument débordé en permanence, je suis d'autant plus touché qu'il ait honoré ce rendez-vous. Il y avait plus d'une raison pour qu'il revienne aujourd'hui et pour que nous poursuivions notre dialogue que nous avons depuis des années autour de questions comme celle-ci, que nous avons en partie concrétisé dans un livre qui est sorti au mois d'octobre, qui s'appelle « La philosophie face à la violence ». Il y avait plus d'une raison parce qu'il est l'un de ceux auxquels aujourd'hui, parmi les philosophes contemporains, la question que nous abordons dans ces séances n'est pas étrangère. Nous avons vu comment la honte était une expérience structurante dans la relation qui nous lie à autrui. Cela nous a beaucoup occupés pendant les premières séances. Je ne vais pas d'un double titre, hein, qu'elle était une expérience structurante dans la relation qui nous lie à autrui à un double titre. Je ne vais pas refaire tout le parcours, mais si vous vous souvenez, nous disions qu'elle est à la fois une réaction nécessaire devant la violence que les hommes s'infligent mutuellement, qu'il est parfois utile, nécessaire d'éprouver de la honte pour ce que les hommes sont capables de faire, de se faire les uns aux autres, mais en même temps qu'elle est, comme nous l'a appris la lecture de Lévinas notamment, une forme de violence terrible, que c'est une grande violence que de faire honte à l'autre ou que de le forcer à éprouver de la honte. Et ce double aspect contradictoire, et ce que nous avions appelé, vous vous en souvenez sans doute, son ambivalence, l'ambivalence de la honte. Eh bien, Frédéric est, à n'en pas douter, l'un des philosophes contemporains qui a construit l'une des théories et l'une des réflexions les plus stimulantes, les plus importantes dans le paysage philosophique actuel, sur les relations, précisément. Sur les relations et à partir notamment de leur violation. Et nous allons sans doute, cette question de la violation va, je suppose, réapparaître dans notre interrogation aujourd'hui sur l'humiliation. À partir de leur violation, comprendre les relations humaines, comprendre ce qui peut détruire ces relations à partir de leur violation, c'est-à-dire donc comprendre à partir de ce qui les blesse. Et au nombre de ces blessures, il faut bien sûr compter l'humiliation et la honte qui en résulte. Or, il se trouve que cette expérience revient dans un livre majeur, je pense que c'est vraiment l'un des grands livres de philosophie publiés ces dernières années, un livre que Frédéric a publié en 2012 et qui a trouvé, comme vous pouvez vous en douter, une étrange et même, je dirais, une terrible résonance ces dernières semaines et plus généralement tout au long de cette année 2015. Ce livre, que peut-être certains d'entre vous ont déjà lu, s'intitule « Revivre ». Revivre, éprouver nos blessures et nos ressources. Donc, cette séance relie, va relier, l'une à l'autre deux notions capitales, la honte et l'humiliation. Nous n'avons pas encore parlé de l'humiliation. Et pour être honnête, lorsque j'ai construit ce programme, l'idée ne m'en était pas venue au premier abord. Et par contre, ce qui m'apparaissait comme une évidence, c'était le fait de redemander à Frédéric de partager une séance avec moi. Donc l'humiliation, lier la honte à l'humiliation, repartir de l'humiliation, Frédéric, c'est toi qui l'as voulu, c'est même toi qui l'as suggéré. Et ma première question sera, tout simplement, avant même que nous commencions le texte, de te demander pourquoi.
Ben merci d'abord à toi de l'invitation, puis merci de cette présentation dont j'allais presque dire qu'elle me fait honte, enfin, par le côté comme ça de générosité et d'un des aspects profonds de la honte dans l'ambivalence positive de la honte, c'est-à-dire c'est plutôt le côté positif de la honte. On parlera peut-être tout à l'heure aussi. Dans ce sens-là, j'ai ressenti une honte, mais une honte, reconnaissante de la part de ce que tu disais en présentation. Mais justement, je n'avais pas pensé à parler de l'ambivalence de la honte, mais ce sens dans lequel vient d'employer l'expression « faire honte » me conduit à ta question et à souligner l'ambivalence. Parce que, au fond, il pourrait paraître surprenant de partir de l'humiliation pour penser la honte. La thèse que je voulais soutenir dans les petites lignes que je t'ai envoyées pour justifier cette proposition, c'est justement une thèse paradoxale, c'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce que je vais essayer de discuter avec toi et avec vous tous, c'est l'idée que il faut pas partir de la honte pour comprendre l'humiliation, mais l'inverse. Or, ça pourrait paraître paradoxal, parce qu'il me semble qu'intuitivement, comme ça, on a l'impression qu'il y a le phénomène de la honte, qui est un phénomène psychologique, intersubjectif, moral, puis qu'il y a une dimension supplémentaire qui consiste à faire honte à quelqu'un devant quelqu'un d'autre, et en plus, sans doute de manière répétée et probablement avec une dimension politique, voire institutionnelle, et c'est ça qu'on pourrait appeler l'humiliation. Donc l'humiliation, ce serait plutôt une dimension qui s'ajoute à la honte, une dimension de non seulement de violence de face à face, même si on peut humilier dans le face à face, mais toujours avec une dimension supplémentaire, c'est-à-dire au moins délibérée, parce que je peux ressentir la honte si quelqu'un, comme chez Sartre, me surprend en train de faire quelque chose de pas bien, mais l'humiliation, c'est un acte délibéré de quelqu'un pour lui faire honte, et en réalité aussi, lui faire honte, enfin justement c'est la thèse qu'on soutiendra tout à l'heure, avec toujours une dimension politique et une dimension morale encore plus profonde que dans la honte toute seule. Donc le paradoxe que je voudrais soutenir, c'est que c'est le contraire qu'il faut dire, c'est que c'est l'humiliation qui nous apprend toute la profondeur dont la honte est capable. C'est pas quelque chose qui s'ajoute à la honte, par l'intention délibérée de nuire, par le contexte politique, par des institutions qui peuvent être humiliantes, c'est plutôt quelque chose qui nous révèle la vérité de la honte. Donc c'est vraiment un peu, je pense qu'on minimise toujours la honte et l'humiliation si on part de la honte pour comprendre l'humiliation, alors que l'humiliation nous montre jusqu'où la honte peut aller. Mais donc faire honte à quelqu'un, c'est quelque chose, c'est pas, ça s'ajoute pas à la honte, c'est la vérité de la honte. Et donc en un certain sens, voilà, c'est ça qu'on va essayer de discuter, mais ce qui est intéressant dans ce que j'ai ressenti quand tu m'as présenté, c'est que même le faire honte à quelqu'un est ambivalent. C'est-à-dire, il y a le faire honte pour humilier, puis il y a le...
C'était pas mon but.
Non, évidemment, j'ai bien compris.
Mais si tu veux, je peux.
Ah non, je suis... Mais on ne peut pas vouloir être humilié, sauf peut-être... Il y a peut-être une tendance en nous aussi... En tout cas, les structures de la honte peuvent être très, très compliquées. Il peut y avoir une perversion, on peut vouloir désirer être humilié. C'est une des interprétations du masochisme, y compris non seulement chez Freud, mais chez Sartre. Hein. Désirer être humilié, ça peut en effet être un... Enfin, voilà, je rebondis sur ce que tu dis. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi... Même le faire honte peut être finalement ambivalent. C'est-à-dire, j'y avais pas pensé... Je parlerai tout à l'heure de la cruauté morale, au fond, mais le faire honte peut être aussi du bon côté de la honte, ce bon côté de la honte dont tu parlais en commençant, c'est-à-dire plutôt ce sens de... Je dirais que c'est à la fois cette, cette résistance à ce qui nous humilie, et puis ce sentiment aussi de dévoilement de ce qui en nous ne doit pas l'être, et plutôt le dévoilement de la simplicité, de la vertu, enfin cette sorte de honte de l'homme de bien qui ne fait pas le bien pour être reconnu, et quand on le lui reconnaît, bah, il, loin d'ajouter quelque chose, ça, il n'en a pas besoin. Cette sorte de pudeur qui fait qu'on se passe de la reconnaissance, et que la reconnaissance par autrui est presque une honte, c'est le type qui rougit d'avoir fait le bien. Voilà. C'est ça la profondeur de la honte positive. Donc, voilà.
Alors, je te remercie parce que là, dans ta réponse, tu viens, il y a un certain nombre de... Tu ne pouvais pas le savoir, parce que tu ne sais pas exactement comment j'ai scénarisé cette séance, mais tu as lâché un certain nombre de termes qui vont ponctuer cette séance, qui vont surtout ponctuer les textes que nous allons lire, parce que nous allons lire quatre textes, je ne vous dis pas encore tout. Donc par exemple, si tu dois parler de la cruauté morale, attends le troisième texte. Si tu dois parler de la pudeur, attends le quatrième texte. Les deux premiers textes, il y a évidemment une expérience...
Je ne sais pas si je vais faire ce qu'il me dit.
T'as intérêt. Et alors, vous vous souvenez, dans la dernière séance, il avait été beaucoup question d'Hiroshima. Il a été beaucoup question d'Hiroshima dans la dernière séance, et je voyais bien que, parlant de l'horreur d'Hiroshima, c'est senti que dans la salle, à des regards, on perçoit plein de choses quand on est sur la tribune et qu'on regarde l'assistance, j'ai senti que certains se demandaient mais est-ce que dans ces séances sur la honte, il va aborder à un moment, pas seulement Hiroshima, mais la terreur nazie. La terreur nazie, la cruauté nazie. Et évidemment, le biais par lequel on pouvait l'aborder, il y a bien des biais par lesquels on pouvait l'aborder. Il y a une expérience terrible, évidemment, qui a beaucoup à voir avec l'humiliation et avec la honte, c'est celle de la torture. C'est celle de la torture, de l'humiliation. De l'humiliation qu'inflige la torture et de la honte qui peut en résulter. Et donc j'ai choisi pour ouvrir comme première scansion de cette séance un passage d'un livre que sans doute certains d'entre vous connaissent, qui est un très, très grand livre. C'est le livre de Jean Améry qui s'appelle « Par-delà le crime et le châtiment » et dans lequel Jean Améry raconte à un moment, donc Jean Améry a été arrêté par les Allemands en Belgique, il a été torturé, et il y a un chapitre très important de son livre dans lequel il raconte cette expérience de la torture. Or, il se trouve que ce passage-là, précisément, est aussi un passage que Frédéric commente, lit à sa façon, lit avec ses propres mots, dans « Revivre », le livre que je citais tout l'instant. Donc, nous allons lire coup sur coup, là, tout de suite, comme première scansion, à la fois le texte de Jean Améry, vous allez voir, c'est un texte extrêmement poignant, et puis quelques phrases du commentaire qu'Antoine Frédéric, et je te demanderai après Frédéric de rebondir à la fois sur le texte de Jean Améry, et sur ton propre commentaire. Donc Alice, c'est à vous si vous voulez bien nous lire ces deux textes.
La pensée n'est presque rien d'autre qu'un grand étonnement. Étonnement de constater que l'on a tenu le coup, que l'épouvantable tumulte n'a pas conduit à l'explosion du corps, qu'il y a là encore un front sur lequel on peut passer ses mains liées, un œil qui se laisse ouvrir et fermer, une bouche dont on reconnaîtrait les contours dans un miroir. Comment est-ce possible ? Se dit-on. Toi, qui pour une simple rage de dents tirait la tête à toute la famille, tu as pu rester pendu au bout de tes bras désarticulés et survivre. Toi qui pour une légère brûlure de cigarette traînais ta mauvaise humeur pendant des heures, on t'a infligé des plaies avec un air de bœuf, des plaies que tu ne sens presque plus maintenant que c'est passé. Étonnement aussi de constater qu'il vous est arrivé à vous-même ce qui, à juste titre, ne devait concerner que ceux qui avaient traité le sujet dans les textes accusateurs des brochures. La torture. Un meurtre est commis, mais il appartient au journal qui le relate. Un accident d'avion s'est produit, mais il concerne les gens qui ont perdu un parent à cette occasion. la Gestapo torture, mais jusqu'ici c'est resté l'affaire des Kidam que l'on a suppliciés et qui ont exhibé leurs cicatrices au congrès antifasciste. Que tout à coup, on se retrouve soi-même dans la peau du Kidam, c'est ce qu'on a du mal à comprendre. Cela aussi, c'est une espèce d'aliénation. Si ce qui reste de l'expérience de la torture peut jamais être autre chose qu'une impression de cauchemar, alors c'est un immense étonnement. Et c'est aussi le sentiment d'être devenu étranger au monde, état profond, qu'aucune forme de communication ultérieure avec les hommes ne pourra compenser. Le supplicié est surpris de voir que dans ce monde, l'autre peut prendre la forme du dominateur absolu, et que cette domination a pu tourner en un pouvoir d'infliger la souffrance et d'anéantir. La domination du tortionnaire sur sa victime n'a rien à voir avec le pouvoir exercé sur la base de contrats sociaux tels que nous le connaissons tous. Ce n'est pas l'autorité du policier de la route sur le piéton, du percepteur d'impôts sur le contribuable, du lieutenant sur le sous-lieutenant. Ce n'est pas non plus la souveraineté sacrée des chefs ou des rois absolus. Car même s'ils éveillaient la crainte, ils étaient en même temps objets de confiance. Le roi pouvait être terrifiant dans son courroux, mais aussi bienveillant dans sa clémence. Exercer l'autorité équivalait à gouverner, tandis que le pouvoir du bourreau dans les mains duquel le supplicié gémit n'est rien d'autre que le triomphe illimité du survivant sur celui qui est jeté hors du monde, dans la souffrance et dans la mort. Étonnement de constater l'existence de l'autre qui s'affirme dans la torture sans plus tenir compte d'aucune limite. Et étonnement de voir ce que l'on peut devenir soi-même, chair et mort. L'homme torturé ne cessera plus de s'étonner à la pensée de ce qui s'appelle âme ou esprit, ou conscience ou identité selon le cas. Que cela puisse être anéanti d'un coup, au moment où les articulations des épaules craquent et sautent. Que la vie soit fragile et qu'on puisse y mettre fin rien qu'avec une petite aiguille, comme l'écrit Shakespeare, ce sont là des lieux communs qu'il connaît depuis toujours. Mais que l'on puisse à ce point réduire l'homme à l'état de chair et en faire une quasi-proie de la mort, c'est ce que seule la torture a pu lui apprendre. Celui qui a été soumis à la torture est désormais incapable de se sentir chez soi dans le monde. L'outrage de l'anéantissement est indélébile. La confiance dans le monde qu'ébranle déjà le premier coup reçu et que la torture finit d'éteindre complètement est irrécupérable. Avoir vu son prochain se retourner contre soi engendre un sentiment d'horreur à tout jamais incrusté dans l'homme torturé. Personne ne sort de ce sentiment pour découvrir l'horizon d'un monde où règne le principe espérance. Celui qui a été martyrisé est livré sans défense à l'angoisse. C'est elle qui dorénavant le mènera à la baguette de son sceptre. Elle, mais aussi ce qu'on appelle les ressentiments, car ils demeurent et n'ont guère de chance de se transformer en une soif de vengeance écumante et purificatrice.
Donc ça, c'était le texte de Jean Améry, Par-delà le crime et le châtiment. Je vous incite vraiment à lire, c'est un des très grands livres, hein, abordant ces questions, qui a donné lieu à de nombreux commentaires. Et parmi les commentaires, il y a donc celui que lui consacre Frédéric dans Revivre. Donc Alice, si vous voulez nous lire ce passage du livre de Frédéric, et puis après nous allons reprendre notre dialogue.
La torture n'est donc pas seulement un face-à-face entre deux libertés, comme le décrivait Sartre dans L'être et le néant. Celle du bourreau, cherchant violemment, mais selon lui vainement, à accuser celle de l'autre homme, à la réduire à l'état de chose. Selon Sartre, en effet, la torture qui cherche à apparenter l'homme à une chose, à le limiter à un corps, à sa souffrance, sera toujours un échec. La conscience, la liberté étant insaisissable et irréductible. Ce qui explique aussi, dans ces analyses qui sont profondes, la rage même du bourreau. Mais on peut se demander si l'homme est toujours irréductible à son corps, à sa souffrance, et même à une chose. Et si ce n'est pas là justement ce contre quoi la liberté se dresse, avec une horreur comparable à celle de la chair devant la souffrance. C'est ce que décrit Améry. C'est ce qu'ont aussi soutenu des pensées comme celle de Lévinas ou de Simone Veil. dans l'Iliade ou le poème de la force, au seuil de la guerre, cette dernière définit précisément la force comme ce qui, immédiatement et par principe, réduit un homme, une conscience ou une âme à une chose. Mais il faut aller plus loin encore. Méditer sur le fait que le coup porté s'inscrit aussi dans une histoire, vient briser non seulement un corps, mais une relation. Et avec elle, s'il s'agit d'une violation, toutes les relations. Car il y aura un avant, marqué par une confiance dans les relations humaines, où un soi est capable de cette confiance, se construit sur elle. Et il y aura un après, peut-être irréversible. Ce côté définitif n'est donc pas seulement lié à l'irruption dans un moi individuel d'une force anonyme et brutale, il vient d'un autre homme. C'est ce qui fournira aussi, pour y résister, une orientation et une exigence morale, sociale, historique. Néanmoins, l'instant de la transformation ne pourra plus être oublié. Le cri qui l'arrache n'est pas seulement de douleur et de revendication, mais d'étonnement. Un étonnement qui révèle une attente, l'attente naïve du bien qui est au cœur de notre âme, qui la définit même, selon Simone Veil, et qui est ici brutalement trahi. C'est donc aussi, en un sens, un cri de deuil.
Bien, merci beaucoup Alice. Merci pour la lecture de ces deux textes tout à fait saisissants. Il y a deux grands thèmes pour moi qui se détachent dans ces deux textes. Il y a d'abord l'idée que la violence, et quelle plus grande violence que l'humiliation, que la violence se traduit toujours, et je crois que c'est vrai de toute forme de violence, ça fait même partie de sa définition, la violence se traduit toujours, se manifeste toujours par une rupture de confiance. La confiance qu'on peut avoir dans son propre corps, on verra sans doute que c'est celle de la maladie, la confiance qu'on peut avoir dans le monde, dans l'espace, la confiance qu'on peut avoir dans le monde, et vous avez vu que c'était un des thèmes du texte de Amélie. Et ce qui fait que la violence brise la confiance tient au fait que ce qu'elle brise en premier, ce qu'elle atteint, ce qu'elle détruit, ce qu'elle compromet, ce sont les relations. Et là, c'est un des grands thèmes qui traverse les textes de Frédéric. Et donc, je pensais, Frédéric, te faire rebondir à la fois sur ces deux questions, la confiance dans le monde et la violation des relations. Et donc, la violation des relations, comme l'humiliation comme violation des relations, et l'expérience de la honte qui en résulte.
D'abord, merci à toi d'avoir choisi ces textes, puis merci à Alice de les avoir lus. Ça a fait quelque chose, pas seulement honte. En fait, un des effets de cette lecture de texte, à ma grande surprise, ce qui était drôle, c'était que j'avais un peu oublié cet aspect du commentaire que je faisais, et je le retrouvais spontanément, c'est-à-dire dans la profondeur du texte de Améry sur la torture, je me disais, mais il a raison, et je repensais à l'erreur de Sartre sur la torture. Et après, quand je voyais que c'était déjà ma réaction, je me dis, mais voilà, on repense toujours la même chose, sans le savoir. Mais pour rebondir sur tes questions, je vais reprendre le rapport avec Sartre, dont vous avez peut-être déjà parlé de Sartre dans votre
parcours. Oui, beaucoup la première séance.
Parce que, au fond, moi, ce que je lui objecte sur la torture, et encore une fois, sans...
Peut-être tu peux rappeler ce que dit Sartre.
Je vais en dire un mot, justement. Ce que je lui reproche sur la torture, c'est au fond aussi ce qu'on pourrait lui reprocher sur la honte. Et ce pourquoi il faut partir de l'humiliation qui va plus loin que la honte. Même si ce que dit Sartre est absolument génial, et je vais essayer de dire pourquoi aussi, et d'une profondeur assez inouïe en réalité. Bon. Mais ce que dit... Je pense qu'il faut... On peut commencer par la torture ou par la honte, peu importe, au fond. Là, on peut commencer par ce qu'on vient d'entendre, hein, grâce à vous. Hein, c'est Sartre a l'idée, donc... le mobile profond de la torture entre les hommes, c'est toujours l'anéantissement, on peut le dire, hein, dans l'être et le néant, l'anéantissement de la liberté de l'un par le pouvoir de l'autre, en fait. L'anéantissement total. C'est jamais seulement la souffrance, c'est jamais seulement même la domination, c'est vraiment l'anéantissement de ce qui fait l'homme aux yeux de Sartre, qui est la liberté absolument irréductible à une chose, pouvoir de conscience, parce que chez lui, qui est phénoménologue, il pense que tout objet est un phénomène donné à une conscience, et donc que nous sommes définis non pas comme une chose, mais comme ce qui perçoit toute chose, et donc quelque chose qui n'est pas une chose, une liberté pure. Et l'idée de Sartre, c'est que cette liberté nous définit tellement que nous ne pouvons jamais la perdre. C'est vraiment constitutif de notre être. Et l'erreur du bourreau, hein, c'est ce que j'essaie de reprendre là dans ce commentaire d'Améry, l'erreur du bourreau, c'est qu'il cherche à, non seulement à détruire un corps, non seulement à détruire même des aspects psychiques ou sociaux, mais à saisir cette liberté. Il n'y arrivera jamais, selon ça. Donc la torture est condamnée à l'échec, et la liberté reste... ne serait-ce que dans le dernier regard, parce que c'est dans le regard que s'incarne la conscience, pour Sartre, hein, la liberté reste toujours présente chez l'homme, jusqu'au dernier moment et au-delà. Et au fond, ce que Améry dit, vous l'avez entendu, hein, l'étonnement que notre conscience, notre âme, puisse être anéantie, hein, j'ai repris l'outrage de l'anéantissement, ce que soutient Améry et en un certain sens contre Sartre. Évidemment, il ne pense pas à Sartre, mais en fait, il pense à des pensées comme celles de Sartre. Il les a quand même en tête, des optimismes métaphysiques, disons. Il pense que cette liberté, cette conscience, en fait, ne sont pas indestructibles, ne sont pas des essences de l'homme telles qu'on ne peut pas les détruire. Il pense qu'elles ont quelque chose de corporel, de vital, de social, ce qui ne va pas de soi. Hein. C'est-à-dire, évidemment, nous, on a tendance à penser, quand tout va bien, que notre conscience est une propriété absolue, métaphysique, que rien ne pourra la détruire. Mais il suffit d'avoir un peu faim, un peu froid, d'être déjà pas bien pour qu'on ne pense pas de la même façon. Donc on se doute bien qu'il y a quelque chose de fragile. Ben, Améry va jusqu'au bout et en effet, notre conscience est destructive par la torture. Et donc il va beaucoup plus loin que ça. Alors, évidemment, c'est des textes de Sartre écrits en 1943. Quand il parle de la torture, il n'a jamais été lui-même torturé, mais il pense à des amis à lui qui sont torturés dans les caves de la Gestapo. Et c'est aussi une façon de dire... Vous ne nous aurez pas, hein. C'est une philosophie de la résistance. D'ailleurs, Sartre disait tout le temps ça, la mort ne m'aura pas vivant, le bourreau ne m'aura pas conscient. Il aura mon corps, mais il n'aura jamais ma liberté. Il peut toujours détruire ce corps, et ce qui lui restera, au bout du compte, c'est une loque, c'est un vêtement, et Sartre n'est pas dualiste au sens métaphysique, mais il est quand même dualiste. C'est-à-dire que vous n'aurez pas, vous ne m'aurez pas, moi, la conscience, vous ne l'aurez pas. Mais Améry est plus pessimiste, ici, vous pouvez l'avoir, en réalité c'est destructif. Et Simone Veil pensait la même chose, en un certain sens. Elle disait même, c'est le propre de la violence, c'est justement de détruire l'âme, de la détruire, de la faire éclater, comme une, voilà, d'en faire une chose, elle qui n'est pas une chose. Donc c'est vraiment une opposition très profonde. Et si, on retrouve la même chose sur la honte.
Une parenthèse, c'était... Parce que
je vais juste faire le parallèle sur la honte d'abord, attends, parce que sinon on ne voit pas le lien.
Alors vas-y, je t'en prie.
En fait, parce que sinon je vais peut-être perdre le fil, le point qui est important, c'est que Sartre est donc absolument d'une profondeur inouïe sur la honte. C'est-à-dire que la honte surgit précisément avec l'apparition du regard d'autrui dans le monde. Et le regard d'autrui sur moi, autrui est une liberté comme moi, et donc pour autrui, je suis une chose. Et donc... dans la honte, je m'aperçois que pour autrui, je suis une chose. C'est le phénomène négatif de ce qui est la structure de tout rapport avec autrui, compris l'amour, la haine et tout le reste. Tout rapport avec autrui, c'est que pour autrui, je ne suis pas seulement une liberté, mais un objet. Et inversement, autrui est un objet pour moi. Mais, donc la honte est cette révélation, et je suis nécessairement un objet pour autrui. Hein, nécessairement, c'est-à-dire que j'ai un corps. En fait, parce que j'ai un corps. Bon, donc, vous me voyez là, et à part mon regard, à part le fait que vous savez que je vous regarde, que vous êtes aussi des corps pour moi, bah je sais que je suis un corps pour vous. Et d'ailleurs, j'ai intérêt, voilà, comme dit Pascal, j'ai intérêt à ne pas avoir de trous dans ma veste, de taches sur ma chemise, parce que voilà, pour vous, vous allez ne plus voir que cette tache sur ma chemise, et vous allez m'objectiver et dire « Oh là là, il est ridicule », et j'aurai honte, précisément. C'est exactement ça, parce que je saurai que pour vous, je ne suis que ce corps. Mais, pour ça... la honte fait de moi un objet, mais jamais entièrement. Jamais entièrement. C'est-à-dire que justement, je reste une liberté. Et donc la honte est une réciprocité. Le rapport à autrui est une réciprocité. Je suis un objet pour vous, mais vous l'êtes pour moi. Et Sartre est dans une position, comme j'ai appelé quelque part, hyper démocratique. C'est le penseur, le métaphysicien le plus démocratique de tous les temps. Parce que c'est un égalitarisme métaphysique absolu. Nous sommes tous des libertés, nous sommes tous des objets pour les uns, pour les autres. Nous sommes tous des libertés. Mais ce que ça veut dire, et c'est là qu'on retrouve le lien entre... Il y a la même symétrie, disons, entre le même rapport entre honte et humiliation qu'entre ces deux philosophies de la torture. Ce que ça veut dire, c'est que la honte ne détruira jamais ma conscience, définitivement. Je peux toujours retourner mon regard sur celui qui me fait honte. Je peux lui faire honte à mon tour, et je peux... Bon. Donc ça veut dire que l'humiliation ne peut pas me détruire. Or, en fait, ce que je soutiens un peu comme Améry et comme Margalit et d'autres, enfin qu'on va peut-être citer tout à l'heure, c'est qu'en réalité, il faut être un peu plus pessimiste que ça. Et l'humiliation peut, comme la torture, nous détruire. Autrement dit, le sujet moral est précaire comme un morceau de verre. Voilà. Nous sommes en réalité, jusque dans notre conscience la plus profonde, nous sommes... vraiment destructible, et en effet, c'est ce que tu disais dans ta question, précisément par le rapport à autrui, c'est-à-dire ce qui peut détruire notre conscience, c'est peut-être, c'est jamais seulement une chose, c'est toujours un autre sujet, et ça prouve aussi d'ailleurs que nous avons été construits par d'autres sujets, c'est-à-dire que là où je reste, entre guillemets, optimiste, c'est que je vais plus loin dans le négatif que ça, par exemple, hein, d'autres philosophes de l'indestructibilité de l'âme. Mais là où c'est évidemment, il y a un revers positif, c'est que l'expérience de la destructibilité radicale, hein, le fait qu'on peut être détruit par la torture ou par l'humiliation, nous montre aussi comment nous avons été construits. C'est-à-dire, dans la perte, on trouve toujours ce qui était important pour nous. Dans ce qui est détruit, on découvre ce à quoi on tenait. Et donc, dans la destruction, je découvre ce qui m'a créé. Donc, si autrui peut me détruire, c'est qu'autrui m'avait créé. Et donc, en réalité, il y a des relations qui nous détruisent parce que d'autres relations nous ont créés. Et on ne peut être détruit par autrui que parce qu'on peut être... On est aussi construit par autrui. Et là aussi, ça va plus loin que Sartre. Parce que Sartre ne pense pas qu'on est construit par autrui. Finalement, il est cartésien, je pense. Puis finalement, après, autrui arrive dans le monde, et c'est un peu compliqué. Mais moi, je ne pense pas ça du tout. Je pense que justement, notre pensée elle-même est constituée par le rapport à autrui, qui peut le détruire, mais parce qu'elle peut aussi le créer. Donc l'humiliation nous révèle aussi l'importance de son contraire, l'importance du respect. Et j'avais écrit un petit texte à un moment sur... parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, j'ai réfléchi sur le soin. Et j'avais écrit un petit texte sur le soin et la torture.
On va y venir, hein, le soin.
Mais sur le soin et la torture.
Oui,
parce que ce qui est intéressant, c'est qu'à mes yeux, la torture est très proche du soin. On pourrait presque dire même que la torture est aussi méticuleuse que le soin. Et connaît l'homme aussi bien que le soin. Il y a deux personnes qui connaissent l'homme profondément, peut-être. C'est l'homme qui soigne complètement et le bourreau. Et pourquoi ? Parce que la torture cherche à détruire tout ce que le soin cherche à construire. Jamais seulement un corps, mais aussi une conscience, une liberté, etc. Et donc, en fait, la torture nous renvoie justement aux soins, et voilà. Et on peut comprendre, hein, d'ailleurs, c'est très précis, hein, ça va très très loin. C'est-à-dire, on croit que la torture, on voit bien qu'elle n'est jamais seulement physique, elle est aussi politique, et le soin n'est jamais seulement physique, il est aussi politique. On voit bien que la torture peut être morale, on va parler de l'humiliation, c'est une torture morale. C'est aussi parce que le soin est moral. Donc en réalité, approfondir le négatif, c'est aussi comprendre ce qui est vraiment positif. Donc je crois que l'expérience de la destruction, là, elle nous rappelle ce qui est vraiment important pour nous. Mais juste, je ne voudrais pas être trop cruel justement avec Sartre. Sartre est absolument génial. Et la philosophie de la honte dans l'être et le néant, toute la troisième partie de l'être et le néant sur le pour autrui est une chose extraordinaire, précisément parce que il y a cette réversibilité des rapports humains, c'est-à-dire...
Ça, on en a beaucoup parlé lors de la première séance, je suppose qu'un certain nombre d'entre vous étaient déjà là.
Par contre, là où il ne va pas assez loin, c'est cette... Alors évidemment, la honte, le rapport à autrui se développe en deux pulsions fondamentales. Je peux vouloir faire de lui un objet, c'est le sadisme, ou je peux vouloir faire de moi un objet pour lui, et c'est le masochisme. Et donc, c'est les deux grandes tendances. Mais en réalité, pour Sartre, il y a des phrases extraordinaires, parce qu'il pense toujours que même ça ne va jamais au bout. Il y a par exemple une phrase, d'ailleurs, qui s'applique assez bien à notre objet d'aujourd'hui, il dit « Même la haine est un échec ».
Oui.
Et le sadisme et le masochisme sont tous les deux des échecs, pour Sartre. Mais le fait que ce soit des échecs, c'est notre seule chance. D'ailleurs, on ne peut jamais être totalement une chose pour autrui. Je ne peux pas être réduit à un objet dans la main du sadique, et je ne peux pas non plus me réduire à un objet sous la main à qui je me prête comme masochiste. En fait, le sadisme et le masochisme ne peuvent pas aller jusqu'au bout. C'est sans doute son optimisme, même s'il est absolument génial de comprendre que les deux limites des relations humaines, c'est ces deux extrêmes de la destruction. D'ailleurs, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est on peut vouloir humilier et on peut vouloir être humilié. Mais l'humiliation nous dit quelque chose, la vérité des relations humaines, c'est une pathologie des relations humaines, mais qui nous renvoie à ce qui les constitue.
Et alors peut-être avant qu'on passe à un autre ensemble de textes, est-ce que tu peux juste revenir sur le rapport précis entre humiliation et honte, c'est-à-dire comment la honte naît de l'humiliation, comment tu articules honte et humiliation.
Je ne dirais pas forcément que la honte naît de l'humiliation dans notre expérience, parce que nous ne sommes pas forcément humiliés. Hein. Mmh. Et je dirais même que l'expérience humaine heureuse échappe à l'humiliation. Enfin, passe pas par les humiliations radicales puisqu'elles sont destructrices, sinon on ne serait pas là pour en parler. Si on avait été constamment humilié de façon absolument destructrice, on n'aurait plus une subjectivité capable d'en parler, même en un certain sens. Bon. Donc heureusement, en un sens, en général, nous ne nous rendons pas compte de la puissance de l'humiliation. Mais, au contraire, c'est ça qui fait notre erreur, c'est que nous ressentons des hontes, des petites humiliations qui peuvent être absolument radicales par certains côtés, dont on ruminera toute notre vie. Hein. Et on oublie qu'en fait, ça peut aller encore plus loin. Donc ce que je pense, c'est pas forcément que nos hontes effectives résultent toujours de l'humiliation. Ce que je soutiens, c'est pas tout à fait ça, c'est plutôt que l'humiliation extrême nous révèle quelque chose de la honte. Et ce que ça nous révèle, c'est précisément que l'estime de soi constituée par la relation à autrui est constitutive de notre être, n'est pas facultative. C'est-à-dire qu'en réalité, seule l'humiliation nous fait comprendre l'importance du respect, non pas seulement moralement et politiquement, mais métaphysiquement. C'est-à-dire, si on n'est pas respecté et soigné, on cesse d'exister tout simplement. On peut encore exister comme corps, mais en fait, on n'existe plus. Moi, je défends une thèse très très radicale, c'est la portée métaphysique.
Si je veux arriver au bout de ma séance, il va falloir que je te freine de temps en temps, parce que c'est difficile. Mais la parenthèse que je voulais ouvrir tout à l'heure, c'est que, je ne sais pas si tu sais, mais cette opposition entre les deux visions de la liberté, ces deux compréhensions, je suis vraiment frappé, ça m'a fait tout de suite penser, il y a un roman que j'aime énormément, qui est un roman de Vassili Grossman, qui s'appelle « Tout passe », c'est ce roman testament qu'il a écrit à la fin. Il y a un passage extraordinaire de « Tout passe », un moment où il y a une confrontation terrible sur le rapport entre la liberté et le mal, et qui sent vraiment dans l'expérience à la fois du stalinisme et du nazisme, et qui oppose exactement terme à terme cet optimisme et ce pessimisme que tu soulignais tout à l'heure. Alors il y a une chose, évidemment, à laquelle... Moi, je tenais, c'est la première chose, je ne sais pas si je suis plus pessimiste ou plus optimiste, mais la première chose qui me vient à l'esprit lorsque je pense à l'humiliation et au rapport entre honte et humiliation, c'est à l'humiliation des catéchismes moraux, c'est-à-dire c'est à la cruauté portée intrinsèquement par toute forme de catéchisme moral. Alors j'avais pensé à un moment choisir un texte de Nietzsche qui le dit si bien dans la généalogie de la morale, j'étais même parti là-dessus, je me disais bon là je ne peux pas non plus montrer des extraits de films parce qu'il y a mille et un extraits de films qu'on pourrait montrer, on aurait pu montrer un extrait de film de Bergman si on était dans une salle de spectacle, on aurait pu montrer un extrait du Ruban Blanc de Haneke qui est un film entièrement consacré à cette histoire justement de la cruauté des châtiments moraux compris et essentiellement comme humiliation. Et puis, j'en étais là de ma réflexion, et il y a toujours des hasards de lecture, des moments. Et ça faisait des années que j'avais envie de lire, ou peut-être de relire, ce roman que vous connaissez peut-être, de Nathaniel Hawthorne, qui est un grand romancier américain contemporain de Melville, du 19e siècle, qui s'appelle La lettre écarlate, qui a donné lieu à de nombreux films, dont un très célèbre de Wim Wenders. Et La lettre écarlate, vous savez, raconte cette histoire, l'histoire de cette... femme dont le mari a plus ou moins disparu, mais qui paraît apparaître très brutalement dans le roman, et en l'absence de son mari, qu'elle pensait vraiment noyer corps et bien, mais auquel elle était quand même encore mariée, tant qu'il n'avait pas été complètement porté disparu, et déclaré décédé, elle donc a une relation considérée comme une relation adultère.
C'est encore, ça c'est tout ce qui précède le début du roman. Et donc, elle est, ça se passe au XVIIe siècle, à Boston, en Nouvelle-Angleterre, dans un monde extrêmement puritain, marqué par, donc c'est vraiment l'Allemagne, l'Amérique puritaine. D'accord. D'autant pour moi, c'est donc l'Amérique. C'est marrant quand on parle de puritain, enfin bref. Donc l'Amérique puritaine, et elle se voit infliger comme châtiment, le châtiment de la communauté, régi par la communauté, qui est de porter à vie, jusqu'à sa mort, une lettre écarlate, cousue sur la poitrine, qui est un A. Et donc il y a donc c'est un roman dont tout le début porte sur ce châtiment qui lui est infligé, et donc elle est amenée, c'est le tout début du roman, à monter sur le pilori et à rester un certain nombre d'heures face au colibet de la foule qui la regarde avec son humiliation inscrite sur sa poitrine, qui est cette lettre écarlate. Donc c'est ce passage-là que j'ai choisi, et donc Alice, si vous voulez nous le lire, et le roman date très précisément de 1850.
Ce fut donc d'un air qui pouvait passer pour serein qu'Esther Prime supporta cette partie de son épreuve et parvint à l'extrémité ouest de la place du marché, devant une manière d'estrade dressée, semblait-il, à demeure, presque à l'abri du toit de la première église de Boston. Cette estrade faisait, en fait, partie d'une machine pénale qui, depuis deux ou trois générations, n'est plus pour nous qu'historique, mais qui était considérée dans l'ancien temps comme tout aussi efficace pour encourager les peuples à la vertu que le fut la guillotine parmi les terroristes de France. C'était en bref l'estrade d'un pilori. Au-dessus se voyait cet instrument conçu de façon à emprisonner une tête humaine dans une étreinte étroite afin de la maintenir face au regard du public. Cette carcasse de bois et de fer symbolisait les affres les plus cruels de l'ignominie. Il semble bien, en effet, que quelle qu'ait pu être la faute d'un individu, il n'y a pas d'outrage qui aille plus à l'encontre de notre commune nature que celui qui interdit au coupable de cacher son visage sous le coup de la honte. Or, telle était l'essence de ce châtiment. Dans le cas d'Esther Prime, cependant, comme dans d'autres assez fréquents, il y avait adoucissement. Son jugement la condamnait à se tenir un certain temps debout sur l'estrade, mais sans subir cette étreinte autour du cou, cet emprisonnement de la tête que permettait le diabolique engin. Connaissant bien son rôle, Esther gravit donc les degrés d'un escalier de bois et se trouva ainsi exposée au regard de la multitude, le plancher du pilori arrivant à hauteur d'épaule d'homme. S'il y avait eu un papiste parmi cette foule de puritains, la vue d'une femme aussi belle, si frappante par sa parure et son maintien, et qui tenait un enfant dans ses bras, aurait pu lui évoquer cette image divine de la maternité que, rivalisant d'art, tant d'illustres peintres ont représentée. Il aurait vu dans ce spectacle quelque chose qui lui aurait rappelé, mais seulement par contraste, la mère sans péché dont l'enfant devait racheter le monde. Ici, la tâche du plus profond péché marquait une fonction entre toutes sacrées de la vie humaine, de sorte que le monde était plus avili encore par la beauté de cette femme et plus perdu l'enfant qu'elle avait porté. La scène n'était pas exempte de cette horreur profonde et comme religieuse que le spectacle de la culpabilité et de la honte d'un des leurs éveille chez les hommes, avant que la société devienne assez corrompue pour que pareil spectacle fasse sourire au lieu de faire frémir. Les témoins de la disgrâce d'Esther Prime en étaient à cette période de simplicité première. Ils étaient assez durs pour regarder mettre à mort cette femme sans élever un murmure contre une punition aussi implacable. Mais ils n'avaient pas cette insensibilité qui, à une autre étape de la vie sociale, n'aurait trouvé que matière à plaisanterie devant une exhibition pareille. Même s'il y avait eu une tendance à tourner la chose en ridicule, elle eût été écrasée en germe par la présence solennelle de gens aussi haut placés que le gouverneur, le juge, un général, et tous les pasteurs de la ville, assis ou debout sur un des balcons du temple, et qui, tous, abaissaient leur regard sur le plancher du pilori. Lorsque semblables personnages peuvent faire partie d'un spectacle de ce genre sans mettre en dignité la dignité de leur fonction, c'est un signe certain que l'application de toute sentence légale conserve toute sa portée et toute sa signification. Aussi la foule était-elle sombre et grave. L'infortuné coupable faisait aussi bonne contenance que pouvait faire une femme sous le millier de regards qui pesaient impitoyablement sur elle, convergeaient sur le signe qu'elle portait. C'était presque intolérable. Impulsive et passionnée de son naturel, elle s'était raidie d'avance contre les venimeux coups de langue, les outrages d'une masse acharnée à l'accabler sous toutes les variétés de l'insulte. Le maintien grave du public avait quelque chose de tellement plus terrible qu'elle aurait plutôt souhaité à présent voir tous ses visages défigurés par les grimaces de raillerie. Si un gros rire avait éclaté dans la multitude, un rire que chaque homme, chaque femme, chaque voix aiguë d'enfant aurait grossi, Chester Pryde aurait pu le leur revaloir à tous par un amer sourire de dédain. Tandis que, sous la coulée de plomb de l'opprobre qui lui était infligée, elle avait par moments l'impression qu'il lui allait falloir crier de toute la force de ses poumons ou se jeter du haut de l'estrade sur le sol si elle ne voulait pas devenir folle.
Bien, merci. Alors, Frédéric, j'avais envie de t'entendre réagir sur ce texte qui décrit vraiment, alors, d'abord une scène d'humiliation, vraiment, parce que le pilori, c'est une humiliation. Déjà, la lettre écarlate est déjà une humiliation. J'ai oublié de dire qu'évidemment, Esther Prime, donc l'héroïne qui porte la lettre écarlate, elle a eu un enfant de cet adultère. Donc, c'est ça la scène. Donc, elle monte sur le pilori avec son enfant sur la poitrine et la lettre écarlate sur l'autre. Donc, je trouve que c'est un texte extraordinaire, un texte assez ambivalent en réalité, assez compliqué, parce que on ne sait pas exactement quelle est la position du narrateur par rapport à cette scène d'humiliation. C'est donc, il décrit l'humiliation, il décrit la honte, mais on n'a pas l'impression non plus que la honte lui semble illégitime. Donc c'est un texte de ce point de vue-là très très ambivalent, très marqué comme tous les romans par la figure du diable aussi, comme les, tout le roman. Donc peut-être, Frédéric, si tu voulais rebondir, réagir sur cette question de l'humiliation, des châtiments moraux, la cruauté. Tout à l'heure, dans tes propos introductifs, tu as évoqué la cruauté, donc peut-être...
Ce qui est intéressant, c'est deux choses, à mon avis. C'est d'abord l'humiliation ici instituée, appuyée sur des institutions. Évidemment, on en a déjà parlé à travers la torture, mais c'était, on l'a interprété pour l'instant plutôt moralement, que c'était son effet sur un sujet. Mais évidemment, là, il y a un dispositif institutionnel qui est lié à une société, à une église, en l'occurrence, mais aussi à un pouvoir politique. Donc ça va au cœur du politique, et en même temps, on voit bien que, et c'est ça, au fond, la thèse que moi, qui m'intéresse, c'est de dire l'humiliation déborde la honte de deux côtés, d'abord parce qu'elle peut en faire un système institué, et non pas seulement une relation individuelle, mais aussi parce que, ce faisant, malgré tout, elle va chercher encore plus loin dans l'individu. Et justement, ça pourrait paraître paradoxal, mais là on voit bien que l'institution de la honte, avec son raffinement social, sa cruauté sociale, va en réalité encore plus détruire quelque chose chez elle que s'il s'agissait seulement d'une relation individuelle. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on peut entendre dans ce passage magnifique où elle ressent qu'elle aurait préféré la raillerie du public que cette froideur qui est garantie par l'institution. C'est-à-dire, c'est un châtiment implacable. Il y a les juges qui interdisent en fait même cette expression terrifiante de la cruauté spontanée, quoi, du type qui se moque du faible, un peu comme Nietzsche, qui est un grand penseur d'humiliation, dit que ce qu'il déteste le plus chez l'homme, c'est l'acharnement sur l'étranger faible et les railleries qu'il suscite, etc. Mais là, c'est encore plus terrifiant parce que, et ça l'affecte encore plus, cette froideur politique. Donc non, c'est bien loin d'être une sorte d'effet atténué ou secondaire, ça va chercher encore plus loin. Et ça, c'est vraiment important, c'est ça qui prouve, à mon avis, que l'humiliation va encore nous révèle les profondeurs les plus cachées de la honte. C'est-à-dire que ça peut aller encore plus loin qu'on ne croit. Et justement parce que l'humiliation peut être en apparence moins... L'humiliation instituée peut être en apparence, peut-être pas moins justement, mais autrement cruelle que la honte individuelle. Et en fait, elle va chercher plus loin. Alors ce qui est amusant, c'est que, en reprenant là pour discuter ce soir, moi il y a un livre qui m'importe beaucoup, c'est un livre très peu connu, d'une philosophe américaine, Judith Clark, qui était très proche de John Rawls à Harvard. C'est un livre extraordinaire qui s'appelle « Les vices ordinaires ». Bon, c'est un livre qui n'est jamais réédité, qui est un livre magnifique. Et il y a un premier chapitre sur la cruauté. Elle s'appuie beaucoup sur Montaigne. Elle dit qu'il y a les philosophes qui parlent du mal, et puis il y a les philosophes qui parlent des expériences humaines les plus simples. Et elle dit Montaigne, c'est les vices ordinaires. Il y a la cruauté. Et en parlant de la cruauté morale, elle parle de l'humiliation et elle parle de Hawthorne, justement, et de Nietzsche. Et c'est vraiment intéressant. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit, et ça rejoint ce que tu disais, ce qu'on disait aussi autour de Jean Améry, hein, qu'est-ce que la cruauté morale ? Ce n'est pas simplement de blesser quelqu'un, c'est une humiliation délibérée et persistante, hein, délibérée et persistante, de sorte que finalement la victime ne peut plus faire confiance ni à elle-même, ni aux autres. Ni à elle-même, ni aux autres. Donc c'est vraiment cette idée d'une rupture très profonde. Et alors, à propos de la lettre écarlate, elle soutient que Hester, en fait, a encore des pouvoirs de résistance. Ce qui est le cas, on le sent bien dans le texte,
dans tout le roman.
Tout le roman. Et elle soutient que, en fait, celui qui craque complètement, si j'ose dire, pour parler un peu familièrement, c'est son amant qui lui culpabilise en quelque sorte. Donc je cite. Hein,
alors, je vous dis pas qui c'est.
Pour bien mesurer l'angoisse d'une conscience individuelle en proie à la cruauté mentale, il n'est qu'à se tourner vers la lettre écarlate de Hawthorne. Arthur Dimmesdale se tue parce qu'il se déteste et se sent coupable. C'est assurément un personnage faible et égocentrique, mais les souffrances qu'il s'inflige sont terribles, bien pires que tout ce que font à Esther ces bourreaux puritains. Donc ce qui est intéressant, c'est que la cruauté morale peut ne pas agir par le dispositif social, voilà, mais c'est quand même l'institution, effectivement, en l'occurrence de l'Église et de l'État qui font que ce personnage se suicide. Et puis il y a un troisième point qui est très important, à mon avis, et qui peut nous orienter vers la suite, c'est que le diagnostic que Judith Clark prête à Hawthorne et à Nietzsche, c'est un diagnostic très profond, c'est-à-dire que ce qui devient cruauté, ce sont des morales de la pitié. Ce sont des institutions qui normalement sont dévouées vers ce qu'on peut appeler le soin d'un certain côté. Ce sont des vertus, les meilleures des vertus qui deviennent les pires des vices, hein, comme dans le proverbe latin, la corruption du meilleur est ce qui entraîne le pire. Et donc, elle explique qu'il y a une sorte de diagnostic que les morales humanitaires, comme disait Nietzsche, et Hawthorne dit pareil, dit la même chose, ce sont elles qui peuvent engendrer les pires cruautés. Alors, on peut être d'accord ou non, hein, évidemment. Hawthorne et Nietzsche, dit-elle, sont les deux critiques les plus intéressants et les plus cohérents. C'est vrai qu'ils sont finalement assez contemporains. Parmi ceux à qui répugnait un humanitarisme que n'ébranlait nul scepticisme et qui était oublieux de ses propres limites. Certains envers même a préféré la cruauté physique à la monstrueuse cruauté morale dont ils étaient témoins. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle explique que dans la lettre écarlate, ce qui est critiqué, c'est pas seulement une sorte de religion de l'amour qui devient une religion de la torture. D'ailleurs, Bergson a très bien montré que toutes les religions peuvent se retourner de l'ouvert vers le clos. On peut être dans la torture au nom de l'amour, comme on peut. Ça ne disqualifie pas nécessairement l'amour, évidemment. Mais il faut faire attention à ce qui ne se retourne pas. Mais ça, il dit que c'est aussi ça peut aussi être dans le politique. Hein. La lettre écarlate n'est pas une simple attaque contre le Boston des puritains, mais les vertus qu'Hawthorne attribue à ses ancêtres étaient d'ordre civique plutôt que religieux. C'est-à-dire la vertu civique des puritains, la cité bostonienne elle-même, peut devenir cruelle. Donc autrement dit, il y a un avertissement. L'important n'est pas le principe dont vous vous réclamez, mais la manière dont vous l'appliquez. Et le principe en lui-même peut se retourner. Ce qui compte plus que tout, c'est l'opposition, finalement, de l'humiliation et du respect, bien plus que l'opposition de, finalement même de l'amour et de la haine, parce qu'on peut humilier au nom de l'amour, en tant que mot en tout cas. Donc finalement ça veut dire que humiliation, respect, ça devrait être au fond la seule boussole des sociétés humaines.
D'accord. Le texte de Nietzsche, qui est traversé d'un bout à l'autre par une grande pensée de la cruauté, c'est la généalogie de la morale.
voilà, dans lequel c'est vraiment un des concepts centrales, enfin, des concepts centraux. On va passer maintenant...
Ça m'a frappé cette rencontre sur la lettre écarlate.
Oui, alors ça j'ignorais qu'il y avait ce commentaire-là de la lettre écarlate, c'est tout à fait saisissant ce qu'elle dit. On va passer au dernier moment. Frédéric, j'ai oublié de le dire, ou plutôt j'ai fait exprès parce que, de ne pas le dire tout de suite, Frédéric est aussi membre du comité consultatif national d'éthique. Il a écrit il y a quelques années un livre également important qui s'appelle « Le moment du soin » et puis un autre un peu plus tard qui s'appelle « Politique du soin ». Il anime beaucoup d'équipes de recherche autour de cette question donc, du soin. Et évidemment, comment aborder la question de l'humiliation sans penser à celle du corps souffrant, du corps malade qui perd ses pouvoirs, sans penser à cette expérience de devoir mettre son corps à nu sous l'œil du médecin, de livrer son corps au regard et aux gestes d'autrui, enfin tout ce qui peut, dans la maladie, s'accompagner ou être vécu en tout cas comme une expérience humiliante et comment ne pas l'articuler, cette expérience de l'humiliation, à la responsabilité du soin. Alors ça, ce sont des thèmes, c'est-à-dire dès que je les mets sur la table, hein, c'est-à-dire pour Frédéric c'est du pain béni. C'est vraiment, c'est beaucoup de pain.
Moi, je n'aime pas ces expériences-là.
Tu n'aimes pas ces expériences-là, mais voilà, il en a beaucoup parlé, il a beaucoup écrit dessus. Et donc, il y a une philosophe qui a écrit un livre absolument admirable et tout à fait bouleversant, écrit à la première personne du singulier, donc qui parle très, très, très intérieurement, très profondément de cette expérience-là. C'est une philosophe un peu plus jeune que nous qui s'appelle Claire Marin et son livre s'appelle Hors moi. Hors de moi. Et nous allons en lire un passage que je vais ensuite demander à Frédéric de commenter. Vous avez remarqué à la fois c'est dans la petite feuille de salle que le dernier, l'un des derniers mots de cette lettre était et le mot pudeur. Et comment ne pas penser la relation entre humiliation, honte, sans aussi faire entrer en ligne de compte ce qui est évidemment profondément lié à la fois à l'expérience de l'humiliation et à l'expérience de la honte, qui est celle de la pudeur. Voilà. Et vous allez voir, le texte que nous allons lire là est un remarquable texte, tout à fait bouleversant, sur la pudeur. Donc Alice, c'est à vous.
Je suis nue. Sur la table d'opération, sur ce lit d'hôpital, devant l'appareil de radiologie. On m'a dit d'attendre. Bientôt, j'en aurai l'habitude. Je n'essaierai plus vainement de cacher derrière mes bras et mes mains, mes seins ou mon sexe. Bientôt, mon corps me sera indifférent. Je les laisserai le manipuler comme s'ils ne me touchaient pas. Quand ils auront tout vu, tout exploré, il ne m'appartiendra plus. Il sera détaché de moi, définitivement converti en objet extérieur. Qu'y a-t-il alors d'étonnant à ce que je le méprise, le néglige, le maltraite ? La maladie m'a rendue asexuée. Elle a gommé toutes les marques du genre dans ma vie, sur mon corps devenu androgyne, dans mon discours. Je ne suis ni masculin ni féminin. Je suis malade, d'un genre neutre, indifférent au désir, à la sexualité, à la reproduction. L'identité de malade phagocyte toutes les autres. Quelle indécence! Le récit de ma vie sexuelle choquerait peut-être moins. Le corps est fait pour être sexuel, être imprégné du désir et pas de la dégénérescence de la maladie. Le désir sublime le corps, tandis que la maladie le dévore. Le corps comme puissance, manifestation d'une animalité de force et d'élan vers l'autre. Le manger, le saisir, le posséder. Mais la maladie, dans sa pulsion autophage, nous révulse. Elle se passe de l'autre, obéit à sa propre loi et attaque le corps comme une proie. Elle se déchaîne sur lui dans cette arène close. Souffrir sans comprendre, sans savoir pourquoi et jusqu'à quand. Dans un corps à corps dévastateur, dans un huis clos qui rend fou celui que l'on frappe sans qu'il ne sache jamais pourquoi. Que signifie encore être impudique pour celui qui a été patient? Que reste-t-il de ma pudeur, maintenant que mon corps a été balayé par tous ces regards plus froids et plus aiguisés que le regard humain, qui peut au moins se détourner? Après s'être vu en tranche, en taches colorées, en squelette, quelle image vivante de moi reste-t-il encore? Où est l'impudeur de jeter sa vie hors de soi lorsqu'on a été forcé puis habitué à l'exposer sans cesse, à exposer sans cesse son corps aux médecins qui passent, aux internes qui apprennent, aux infirmières qui soignent, et puis encore aux médecins de garde, aux urgentistes, à des soignants qu'on ne comprend pas quand les crises surviennent à l'étranger, à l'hôtesse de l'air, aux collègues qui nous surprennent dans un mauvais moment? Que reste-t-il encore de secret, d'intime? La colère et la tristesse, tous ces sentiments que les autres pouvaient deviner et qui ont constitué la sève même de notre existence psychologique quand le corps était en lambeaux. Lorsque l'on a été examiné pendant plusieurs années par des dizaines d'hommes et de femmes appartenant de près ou de loin au milieu médical, lorsqu'on les a vus nous observer comme un animal, nous ausculter avec curiosité, dégoût, nous manipuler sans égard comme une chose, comme de la viande, nous piquer avec maladresse ou brutalité, prélever des échantillons de sang, de chair, d'organes avec agacement ou impatience, lorsqu'on a supporté les regards étonnés, moqueurs ou méprisants sur ce corps, on ne ressent plus les sentiments que l'on éprouvait d'abord devant sa propre nudité exhibée sans ménagement, sentiments de honte, de malaise, d'inquiétude, d'exaspération. Il reste la colère de l'humiliation. Il ne voit plus l'humain en nous.
Bien, merci beaucoup, Nadie. C'est évidemment un texte extrêmement... Bon, tout le livre est comme ça. Tout le livre est comme ça. Je vous vraiment le recommande. Hors de moi, de Claire Marin. Donc, Frédéric, peut-être...
Merci.
C'est tout la question du soin, de la pudeur.
Alors, merci d'avoir pris ce texte. Moi, si je t'ai suggéré de prendre un passage de ce texte, c'est parce que j'ai un débat avec elle depuis 15 ans. À partir de ce texte, et aussi d'un autre livre qu'elle a publié simultanément, en fait, qui est le versant théorique de ce qui, ici, est un récit littéraire. Récit littéraire, d'ailleurs, dont un des aspects très compliqués que l'éditeur a voulu dans la première édition, que ça s'appelle roman, en fait, c'est pas, évidemment pas un roman, mais on sait bien qu'aujourd'hui, il y a une question autour de... Elle a une thèse très précise et très forte sur le rapport entre récit et fiction, enfin bon... Elle explique aussi qu'elle pouvait faire tous les livres qu'elle voulait sur le soin, au fond théorique, philosophique. La seule façon de se faire comprendre, ça a été la littérature, et notamment de se faire comprendre de ses pas. Elle a fait un exposé magnifique où elle expliquait ça. Et le livre qui est paru simultanément, qui vient d'être réédité, qui est un livre très important, s'intitule « Violence de la maladie, violence de la vie ». Et c'est le versant, c'est le, disons, le complémentaire de « Hors de moi ». Et on a un débat, c'est un peu le débat inverse de celui qu'on a eu jusqu'ici, parce que vous voyez bien que dans ce texte qui est magnifique, hein, qui est un texte très, très beau et très important, ça va quand même très très loin. Et moi, il y a un point jusqu'où je ne vais pas. Et c'est vraiment un point vraiment de débat. Et la beauté du texte ne doit pas empêcher de discuter. Je veux dire, il y a un point où je résiste à son texte. En fait. Et ce point, c'est la thèse... qu'elle soutenait à ce moment-là, et elle a beaucoup changé depuis. Enfin bon, dans son dernier livre, qui s'appelle « L'homme sans fièvre », c'est un peu plus compliqué, c'est autre chose. Il y a cette idée que, d'abord, très forte, mais très compliquée, que la maladie est une violence. C'est compliqué pour une raison sur laquelle j'en reviendrai. Et puis, il y a l'idée que, finalement, le soin est une violence. Et on voit bien, voilà, ça a été très, très magnifiquement lu d'ailleurs, et on voit bien qu'il y a de la violence dans le soin, si vous voulez, que le soin est une intrusion, peut être une humiliation. Dans certains contextes, l'est presque inévitablement, notamment dans certains contextes où le soin n'est plus un colloque singulier, mais passe par des institutions qui anonymisent, qui deviennent des... Bon, mais le point où je résiste, c'est de faire du soin de toute façon une violence. Parce que, en fait, justement, le soin est le contraire de la violence et de l'humiliation. Alors, il peut y avoir de la violence dans le soin, mais le débat qu'on a depuis toujours, j'allais dire, qui se poursuivra, je pense, mais c'est de comprendre que si on va jusqu'au bout de cette thèse, il n'y a plus d'antidote à la violence de la maladie, puisque l'antidote lui-même ne fait que la redoubler, en un certain sens, et que même les institutions qui sont censées nous prendre en charge se retournent en institutions d'humiliation, et que, finalement, je vais aller très loin, mais évidemment, ce n'est pas ce qu'elle soutiendrait, mais on a souvent discuté de ça avec elle, et justement, il y a quand même une différence entre la souffrance que m'inflige le médecin pour me guérir, et celle qu'inflige le bourreau à Jean Améry dans la scène dont on a parlé au début. Elle le reconnaît, évidemment elle le reconnaît, mais l'idée qui est au fond, et c'est un acte de résistance aussi, son thèse, l'idée c'est pour elle que il y a deux thèses auxquelles elle s'oppose. C'est d'abord l'idée que le soin serait uniquement bienveillant, c'est ça, je partage ça entièrement, et d'autre part que le véritable soin, enfin c'est une thèse qu'elle défend plutôt celle-là, le véritable soin est le soin qui tient compte de l'humiliation liée à la maladie et au soin. C'est-à-dire que le soin est tout autant moral et politique que physique, et que soigner quelqu'un, c'est pas seulement réparer une blessure, mais c'est aussi tenir compte de la situation sociale et morale dans laquelle met cette blessure. Ce qu'un sociologue comme Richard Sennett, j'ai apporté un texte très important aussi sur la honte, appelle la honte de la dépendance. Il y a une double peine liée à la maladie, au moins une double peine. Toute situation de dépendance comporte une double peine. Il y a d'une part, vous souffrez de la souffrance elle-même, et puis d'autre part, vous souffrez de cette manière dont cette souffrance vous met finalement en dépendance vis-à-vis d'autrui. Et cette dépendance s'accompagne toujours, le plus souvent de honte, dans nos sociétés d'ailleurs. Dans nos sociétés, parce que justement, on n'est pas censé souffrir de la on n'est pas censé être dépendant, on est censé être autonome, on est même censé être tirer profit de la dépendance. C'est une des choses que Claire Marin critique avec une force que je vous conseille d'aller voir dans Violence de la maladie et Violence de la vie, c'est la phrase de Nietzsche, tout ce qui ne nous détruit pas nous rend plus fort. Et elle dit non, ça c'est pas vrai, ce qui ne nous détruit pas et qui nous abîme quand même nous rend plus faible, ça ne rend pas plus fort. Et l'idée que ça ne rend plus fort est un leurre qui fait qu'on ne peut pas accepter la faiblesse. Donc la faiblesse est honteuse, et elle s'insurge contre cette honte liée à la faiblesse. Donc évidemment que sa thèse, c'est pas de dire, c'est de dire il y a un soin qui peut ne pas être une violence, mais au fond, voilà, ça fait vraiment 10 ans qu'on discute là-dessus, et c'est vraiment un débat important, parce que si le soin est nécessairement une humiliation, bon, mais il est évident que le soin qui n'est pas une humiliation, c'est le soin qui a conscience qu'il peut le devenir. Parce qu'un soin qui se pense immédiatement comme bienveillant et comme justement sans ambivalence, en fait, accepte sans crier gare. Mais inversement, il est évident que même dans en un certain sens, même dans l'institution hospitalière qui a une part de violence, mais dans la mesure où elle est quand même prise dans la relation médicale et dans une relation de justice, ça n'est pas une salle de torture. Il y a, évidemment, il y a toujours cette sorte de réversibilité tragique du soin qui peut devenir une torture, et de la torture qui comporte quelque chose de façon totalement pathologique et dans un mimétisme terrifiant avec le soin. Le soin maniaque du bourreau que décrivent tous les, y compris moral. Hein. Donc mais c'est quand même extrêmement important, je crois, de comprendre que le soin n'est pas nécessairement une violence. Et à quelles conditions, précisément, il peut ne pas l'être. Et l'une des conditions, on le voit bien là sur l'humiliation, justement, c'est qu'il faut tenir compte des effets moraux de la dépendance, des effets moraux de la vulnérabilité. Et parmi ces effets moraux, il y a en effet la honte, sous la forme ici de la pudeur. Et le médecin qui ne tient pas compte de cette pudeur n'est évidemment pas dans le soin complet. Et cette impudeur du soin, elle peut être nécessaire techniquement. Je veux dire, quand elle est nue, là, c'est parce qu'elle rentre dans un appareil technique. Mais à quelles conditions peut-on compenser cette impudeur du soin par un surcroît de pudeur, d'accompagnement de cette impudeur? C'est ça la véritable question morale, et ça prouve une fois de plus qu'au fond, il faut aller jusqu'à l'humiliation, parce que si on n'a pas l'humiliation, on n'a pas tous les aspects de la vie humaine. Alors l'humiliation, c'est physique, psychique et social. Le malheur humain est toujours à la fois physique, psychique et social. La déchéance physique est toujours aussi psychique et sociale. Et on se détourne du type qui souffre. Et donc, pour le soigner, il faut aussi le respecter. Donc, c'est pour ça que c'est un texte très beau, c'est parce qu'elle prend en compte toutes ces dimensions, qu'elle voit son corps s'abîmer, il y a toute une réflexion sur l'image de soi. Elle a fait aussi un petit livre qui s'intitule « La maladie catastrophe intime », où justement, il y a cette idée de l'image de soi. Mais là encore, moi, j'insiste beaucoup sur l'idée qu'il faut approfondir le négatif pour approfondir le positif. C'est-à-dire que ça veut dire aussi que restaurer le sujet souffrant, c'est aussi restaurer son image de lui-même. Et même, à la limite, je ne dirais pas que c'est plus important, mais en tout cas, par exemple, quand on atteint l'incurable physique, il reste le soin psychique et social. Et donc, l'image de soi, le respect de soi-même et le respect par autrui, voilà, il n'y a pas de verdict, ça ne s'arrête jamais. Le traitement physique peut à un moment s'arrêter, mais le soin moral et psychique ne s'arrête jamais. C'est d'ailleurs pour ça qu'il ne faut jamais parler d'arrêt de soin. Quand on parle de la fin de vie, il ne peut s'agir que d'arrêt de traitement. Le traitement étant le soin de la maladie organique qui peut être incurable, mais le malheur humain est toujours curable dans une certaine dimension et dans une certaine mesure. En tout cas, on peut toujours prendre soin de la dimension morale des êtres humains. Ça ne s'arrête jamais, même après la mort d'ailleurs. Parce qu'on voit bien qu'on peut encore faire violence post-mortem à quelqu'un, d'une façon évidemment indirecte.
Alors, ce que j'aimerais, c'est avant, puisque je vois l'heure qui tourne, et on va bientôt arriver au terme de la séance, j'aimerais que tu reviennes un peu sur la pudeur, sur l'expérience de la pudeur, parce qu'évidemment, on a le sentiment profond que honte et pudeur sont effectivement intrinsèquement liés. J'avais même à un moment pensé à consacrer une séance entière à la question de la pudeur, notamment si on avait pu faire avec Barbara Cassin cette séance sur les Grecs, sur la question de la honte chez les Grecs, où là évidemment c'est le même terme qui dit honte et pudeur, et donc il y avait toute une construction, une réflexion à faire autour de ça, mais donc on n'aura pas cette séance, il en sera peut-être question dans la prochaine séance dont je vous dirai un mot tout à l'heure. Mais peut-être si tu voulais revenir, c'est aussi pudeur et le dernier mot de ces quelques lignes de présentation que je t'ai demandé d'écrire pour la feuille de salle que vous avez. Donc, si tu veux, ou alors si tu préfères, tu peux nous lire le passage de Sénètre que tu avais emmené et revenir.
Non, dessus. Parce que c'est pas du tout sur la pudeur. Enfin, il y a peut-être un passage sur la pudeur.
Tu peux ne pas avoir envie de parler de pudeur. Et tout à coup, tu penses que tu as dit tout ce que
tu peux avoir la pudeur de ne pas.
Tu peux avoir la pudeur de ne pas parler sur la pudeur. Et auquel cas, je t'offre une porte de sortie qui est ton texte de Sénètre qui est effectivement tiré du respect. Donc, en fait, tu as le choix.
Non, je vais essayer de relever le défi de la pudeur. Bon, on pourrait dire, mais je vais repartir de Sartre, mais je pense justement pour le dépasser là aussi, mais c'est très profond, c'est-à-dire qu'on voit bien que finalement, la violence que nous fait le regard d'autrui, c'est de nous chosifier, de nous réifier, disons, comme on pourrait dire, comme disent justement les sociologues du respect, les philosophes de la reconnaissance. Nous sommes des libertés et on fait de nous une chose. Et donc ça, c'est une violence dont la honte est le signe, en quelque sorte. C'est-à-dire, on m'a réifié. La honte au sens négatif, hein, pas la honte.
Exactement.
Dont on a parlé. On a fait de moi une chose, d'une façon ou d'une autre. On m'a montré, par exemple, comme on montre un phénomène de foire, on peut montrer un quelqu'un pour ses. Voilà, comme on montrait les femmes à barbe ou les nains dans les foires au Moyen-Âge. Quoi. Et donc je pense que simplement il faut étendre cette réflexion de Sartre au fait que ce qui vaut pour nous de façon capitale, c'est pas seulement la liberté. Ça peut être d'autres dimensions, et ça, Sartre ne le voit pas forcément. C'est-à-dire, au fond, la violence de la honte infligée pour Sartre porte toujours sur la liberté. Et on a réifié la liberté d'autrui. Mais il y a d'autres dimensions. Et au fond, moi, ce que je dirais, en fait, pour comprendre la pudeur, il ne faut pas non plus la référer uniquement à des codes culturels. On pourrait croire, par exemple, que chaque culture définit ses pudenda, comme on dit en latin. C'est ce qu'il faut cacher. Qui, en latin, les pudenda, c'est ce qu'il faut cacher, et c'est donc les parties sexuelles.
Les parties honteuses.
Les parties, justement, honteuses. Voilà. Évidemment, et on se dit, bah oui, mais bon, il suffit de regarder les photos rapportées par Lévi-Strauss d'Amazonie, il y a des cultures qui montrent ces parties honteuses, et elles n'ont plus rien de honteux. D'ailleurs, au XVIIIe siècle, même chez Montaigne, hein, le relativisme culturel, cette sorte d'émerveillement devant cette impudeur apparente les peuples chez qui ces parties-là ne sont pas habillées ou cachées. Bon. Donc, ça pourrait être une autre interprétation de la pudeur, de dire que c'est totalement culturel. Il y a des codes de la pudeur. Et moi, je ne crois pas ça non plus, parce que je pense que, en fait, ce que nous apprend la pudeur, c'est... Au fond, la vérité de la pudeur, elle n'est ni la liberté intérieure, ni un code culturel. La vérité de la pudeur, c'est ses degrés, et c'est plutôt l'intimité d'une subjectivité, mais qui se dévoile par degrés. Donc la vérité de la pudeur, c'est les relations dans lesquelles on peut se dévoiler. Et je crois qu'il y a quand même un texte dans Sénat là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, on peut définir l'amitié et surtout l'amour par le fait qu'avec l'être aimé, on perd justement à la fois les codes culturels de la pudeur et même les interdits moraux. Et on peut tout se dire, il y a une sorte de peut-être de limite. Hein. Il n'est pas du tout sûr qu'on puisse absolument transgresser certaines limites subjectives, etc. Mais en tout cas, il y a des degrés dans la pudeur. Et ce qui est sûr, c'est que c'est lié à la relation humaine et qu'il y a des intrusions dans la pudeur qui sont parmi les grandes violences de la honte. Et inversement, il y a des moments où on dépasse la pudeur, sont des moments de grande confiance avec autrui. Ça peut définir l'amitié et l'amour, je pense. Donc voilà, il y a aussi... Moi, je résiste à l'idée que la pudeur est une intériorité. Elle cache une intériorité subjective. En fait, elle ne cache pas une intériorité, mais une intimité au sens des relations intimes qui sont encore extérieures. Il y a pas, la pudeur, ça ne cache pas quelque chose. Simplement, bon. Et d'ailleurs, on sait très bien que, justement, ce qui permet de dépasser la pudeur, c'est la délicatesse, ou bien c'est le soin psychique aussi, dans la psychologie. Ce qu'a inventé Freud, au fond, c'est un dispositif pour instituer la délicatesse amoureuse en soin. Et devant le thérapeute, j'ai plus de pudeur. Il faut surtout pas avoir de pudeur. Faut que tout... Enfin, si je commence à avoir... Parce que la pudeur peut quand même être aussi une honte intériorisée. Et c'est pas de l'impudeur parce que c'est protégé par le cadre. Et que ça peut être trahi, hein, comme Hitler. Il peut y avoir des... Voilà, c'est pas de l'impudeur parce que c'est protégé par le cadre et c'est pour guérir les maladies de la honte, les maladies de la pudeur. La pudeur peut devenir maladie, au sens là, ça devient une pathologie. Donc il y a pudeur est un indicateur des relations humaines, très profond, à mon avis. C'est une nécessité morale et ça peut devenir, comme toute chose humaine, ça peut devenir pathologique. Et puis surtout, je pense que c'est ce qui permet de distinguer des degrés dans les relations humaines. C'est-à-dire qu'on ne dit pas la même chose à tout le monde.
Et on ne se montre pas.
La vérité de la pudeur.
On ne se montre pas.
On se montre différentiellement.
On se montre différentiellement. Oui, je crois que c'est une idée très juste, cette idée qu'en fond, que
ce n'est pas tout ou rien.
Voilà, exactement. Ce n'est pas tout ou rien. Et la pudeur, la pudeur... fait l'objet d'une violence selon la personne, les circonstances qui nous imposent l'impudeur. En fait.
Selon la confusion des ordres, surtout. C'est-à-dire que le type qui se lâche, comme on dit, qui raconte sa vie, qui montre ses... dans un contexte... C'est la confusion des ordres qui crée la violence aussi, qui crée la... Voilà, et puis inversement, dans certains contextes, il y a des fausses hontes, et au contraire, il y a des... On peut oublier la pudeur, la déposer un petit peu au vestiaire. Mais c'est plutôt cette sorte de... Ça distingue des ordres dans les relations humaines.
Alors, on est pratiquement arrivé au bout de cette séance. Si je te demandais de la conclure d'un mot, de dire d'un mot sur... de la conclure d'un mot sur cette... Après, je dirai un mot de mon côté, mais sur la...
Ce que tu appelles un mot, c'est un mot ou c'est...
Non, je ne serais pas aussi violent.
Il y a plusieurs définitions de
mot. Non, je ne serais pas aussi violent.
Un mot d'esprit, il y a plusieurs mots.
Bien que la prudence m'inciterait à te limiter un peu, tu dis oui, vas-y, en un mot, ou alors une phrase, sujet, verbe, complément. Voilà, c'est en général ça que je demande aux étudiants. Alors, votre question, d'accord, mais... Une phrase, c'est une question, c'est un sujet, un verbe, un complément et un point d'interrogation. Mais là, je suis d'accord pour que tu en dises un peu plus.
À vrai dire, c'est pas forcément facile.
Et de rassembler dans le fond, parce que encore une fois, cette séance sur honte et humiliation, c'est pour ça que peut-être contrairement à d'autres séances, peut-être moins intervenues que les autres fois, c'est parce que c'est vraiment une séance à laquelle tu tenais. J'étais heureux que tu fasses l'amitié de venir. À cette séance, et donc c'était encore plus que d'habitude une carte blanche, même si voilà, on s'est entendu pour choisir les textes ensemble avec des idées
des idées communes. Et donc, puisque c'était vraiment, dans le fond, ton désir qu'on vienne sur ces questions, si tu avais à rassembler en quelques mots, plus d'une formule peut-être, ou en une formule si tu préfères, ce que tu tenais absolument à dire, ce soit sur honte et humiliation. L'exercice est difficile, oui, mais très salutaire.
Si tu le dis, je ne sais pas, je dirais que... C'est vrai qu'au fond, je pense que la lutte contre l'expérience de l'humiliation peut nous orienter dans tous les problèmes du monde aujourd'hui. Donc ça, c'est ce dont on n'a pas parlé, c'est la dimension sociopolitique contemporaine de tout ça. Donc,
oui, voilà. Toutes les expériences, tous les lieux sociopolitiques de l'humiliation.
Et puis la manière dont c'est au fond une boussole universelle.
Je pense que ça pourrait être. C'est pas mal comme mot de la fin. D'accord. Bon, alors, bravo Frédéric, merci beaucoup, bravo à lui.
À la prochaine séance.